Merci Émilie, merci Elliot pour ces précieux témoignages. La pratique vaut toujours mieux que la théorie. Pour notre nouveau podcast culinaire, Evan Le Chenadec va nous parler de son fameux surgénérateur à isotopes. Mais avant de commencer en parlant cuisine, saviez-vous que le durian, un fruit d'Asie du Sud-Est, était si malodorant qu'il était complètement interdit dans certains lieux publics? Ça brise un peu le glamour de ces paysages paradisiaques. Tout de suite, Evan Le Chenadec.
Bonjour et bienvenue à tous dans notre nouveau podcast culinaire. Aujourd'hui, nous allons préparer un plat qui réveillera les papilles des petits et des grands, un surgénérateur à isotopes. Avant de rentrer dans la concoction de ce petit bijou culinaire, un peu d'histoire. Cette recette a été inventée par l'américain David Hahn dans les années 1970. En effet, le jeune David avait besoin de créer une recette afin d'obtenir le badge de cuisinier nucléaire des scouts qu'il avait rejoint après le divorce de ses parents. Malheureusement, David fit une erreur de cuisson et força les autorités locales à évacuer 10 000 personnes du patelin local. Bon, celui qui n'a jamais brûlé un steak lui jette la première pierre. En tout cas, pour la recette, nous allons avoir besoin de quelques ingrédients. Tout d'abord, nous allons évidemment avoir besoin de matériaux radioactifs, plus précisément d'isotopes fertiles. Des éléments, comme le thorium que nous allons utiliser dans notre recette, sont des variantes des éléments chimiques naturels, plus lourds ou plus légers selon les cas. Par exemple, dans la nature, la majorité de l'hydrogène est composée d'un seul proton et d'un seul électron. Mais il peut exister des noyaux d'hydrogène avec un ou deux neutrons en plus. Cela modifie seulement la masse de l'élément et pas sa nature, car les neutrons sont électriquement neutres, d'où leur nom. Ainsi, ces nouveaux noyaux ont la particularité d'être instables et peuvent se comporter de deux manières différentes. Soit ils vont avoir tendance à se désintégrer spontanément en libérant de l'énergie, ils sont alors difficiles, comme l'uranium-235, utilisé dans les centrales, soit dans le cas qui nous intéresse, vont avoir tendance à se transformer en un autre élément plus lourd, ce sont nos éléments fertiles. Ensuite, nous allons avoir besoin d'un autre ingrédient pour déclencher la transmutation des isotopes fertiles. Pour notre recette, nous allons utiliser un canon à neutrons, c'est-à-dire quelque chose qui projette des neutrons. Pour construire notre canon à neutrons, nous allons avoir besoin d'extraire de l'américinium-287 depuis un mollusque qui en produit naturellement les détecteurs de fumée. Vous allez avoir besoin de 2 à 3 kilos de détecteurs de fumée pour servir 4 personnes. Pour finir, sur le sujet des ingrédients, nous allons avoir besoin de 4 barres de barium qui nous servira de modérateur de neutrons pour éviter que notre surgénérateur s'emballe et fonde sur lui-même. Donc pour commencer la réalisation de notre plat, vous allez tout d'abord ouvrir les détecteurs de fumée pour en extraire une petite poudre blanche au niveau de la pile. C'est notre américinium. Vous le mettez ensuite dans un petit cube d'aluminium, ce sera notre canon à neutrons. Ensuite, vous allez faire revenir dans une poêle des vieux manchons de lampe. En effet, ces derniers contiennent une certaine dose de thorium, qui nous servira donc de matériau fertile. Vous allez réaliser 26 petits cubes en aluminium, avec le thorium. Maintenant que tous les ingrédients sont prêts, vous allez pouvoir passer au dressage. Disposez 9 petits cubes de thorium au carré sur votre table, puis votre cube d'américinium au centre, sur celui du milieu. Entourez-le ensuite de 8 cubes de thorium et rajoutez par-dessus les cubes de thorium restants. Attachez le tout à l'aide de rubans adhésifs et ajoutez les barres de barium dans les interstices entre les cubes. Et voilà, vous venez de réaliser un magnifique surgénérateur à thorium. Laissez-le tout seul pendant quelques jours et vous obtiendrez de nouveaux éléments, tels que l'uranium-239, voire des traces du plutonium si vous êtes jeune. Mais attention, ne restez pas trop longtemps devant votre surgénérateur, car tout comme le jeune David, vous risquez de mourir de nombreux cancers, comme la leucémie.
Ça a l'air fameux, je sais pas si j'y goûterais. En attendant de recueillir les ingrédients nécessaires, que diriez-vous d'écouter la chronique politique de Nathan Touroud? Peu importe, c'est maintenant!
Bonjour et bienvenue dans cette chronique politique du mois d'avril. En 2019, nous avions eu le droit à Lincoln, une chèvre de 3 ans élue maire de Fairhaven, une petite ville des États-Unis. Au tout début du mois d'avril, un pays, je vous laisse deviner lequel, a annoncé qu'il allait lancer une période de test de 1 an durant laquelle il serait dirigé par une intelligence artificielle. On peut imaginer que ça marche. Le fonctionnement est assez simple. Depuis début mars et pour une période de 3 mois, des intelligences artificielles sont en phase d'apprentissage. En ingurgitant des programmes politiques, économiques et sociaux, les promesses d'anciens candidats et les réussites ou les ratés d'anciens élus, ces ordinateurs se dotent d'une identité politique et d'un programme qui leur sont propres. À partir de début juin, commence une campagne présidentielle de 2 semaines, au terme de laquelle les citoyens voteront pour le programme qui leur convient le mieux lors d'un scrutin à 2 tours. le programme élu sera chargé de fonder un gouvernement au sein duquel la parité devra être respectée. Une moitié des ministres sera donc constituée d'êtres humains, tandis que l'autre moitié sera constituée d'intelligence artificielle. Cette initiative a aussi le mérite d'être efficace, puisque les intelligences artificielles ont appris des erreurs et des réussites d'anciens candidats et élus, et qu'elles peuvent donc répondre aux crises politiques et environnementales de la meilleure des façons qui soient, grâce à des calculs qui leur permettent de prendre les meilleures décisions possibles. Vous n'avez toujours pas deviné dans quel pays a lieu cette initiative ? Eh bien sachez que cette période de test a été annoncée le 1er avril 2023 par le président de la République du Listembourg, car je cite
« La désinformation à la radio, dans les journaux ou sur Internet a pris des dimensions trop importantes. Il faut vraiment vous méfier de ce que l'on vous dit. Les humains sont dépassés par les fake news, et aujourd'hui, seule une intelligence artificielle peut y faire face. »
Sachez enfin qu'il est déjà prévu dès le 1er avril 2024 de remplacer les électeurs par des ordinateurs qui seront, je cite encore, « beaucoup plus sages et difficiles à tromper que des êtres humains. »
Quel farceur, quel blagueur, quel boutadeur, quel petit fifrelin rigolo. Mais saviez-vous qu'en Floride, il est également interdit pour une femme célibataire de sauter en parachute un dimanche? Une législation bien stricte pour nos célibs et nos parachutes. Conclusion, amateurs de sensations fortes, trouvez-vous quelqu'un ou bien passez votre chemin. Mais ne vous inquiétez pas. Pour les seuls du fond et ceux qui préfèrent des expériences moins extrêmes mais tout aussi intéressantes, Awen pourrait certainement vous parler du BAFA. Et d'ailleurs, bah il va le faire.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai pu faire il y a quelques semaines. Ce fut pour moi une expérience géniale et enrichissante malgré le rythme très intense. Je veux parler évidemment du BAFA. Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur sert à encadrer les enfants dans les centres de loisirs ou colonies de vacances. Même si le métier d'animateur n'est pas votre projet professionnel, c'est à mes yeux une formation vraiment utile. En plus d'être une mention dans un CV ou des points sur Parcoursup, c'est aussi une option de travail d'été ou pendant les vacances et qui est franchement mieux que caissier en supermarché sans voir la lumière du jour. Cela va développer votre travail d'équipe, obligatoire dans ce milieu, votre capacité d'improvisation, car avec la différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie il n'y en a pas, mais surtout votre éloquence, votre talent d'acteur. Car après avoir joué pendant 45 minutes le zombie en faisant le pitre devant 30 personnes, passer devant un jury de 2 personnes pour dire des choses sérieuses, ça devient beaucoup plus simple. La formation va se dérouler en 3 étapes. La première étape est une session générale de 64 heures. C'est épuisant, émotionnellement et physiquement. Cela me fait faire du 9h-18h30 pendant 8 jours, du dimanche au dimanche pendant les vacances en plus. Car on va pas rester passif comme pendant certains cours au lycée.
L'équipe de Radio Nautilus tient à préciser que les propos tenus pendant la chronique d'Awen n'engagent que lui, et qu'elle ne cautionne en aucun cas une attitude de flémardise en temps scolaire. Cette petite intervention va permettre de rappeler à tous que l'école est importante dans la construction des futurs adultes que nous serons, que l'apprentissage est la plus précieuse des denrées, et que, s'il vous plaît, monsieur le proviseur, ne supprimez pas la radio. C'est lui, c'est pas nous. C'est Awen Langenou. Langenou, en classe de première. Langenou. Et que tout le monde n'a pas la chance d'accéder à cette institution salvatrice des âmes perdues, substantifique moelle, dirait certainement Rabelais, de la condition humaine. Maintenant, reprenons.
En fait, il n'y a pas de cours du tout. Le déroulement de la formation du BAFA dépend de l'association que vous choisirez, librement du moment que vous payez des droits d'inscription. J'ai tout appris à travers des animations organisées par les formateurs dans un premier temps, puis par les stagiaires dans un second temps, avec un fonctionnement très simple. On fait, puis on analyse, chacun notre tour. Par exemple, j'ai tout compris car Jacqueline a annoncé les règles au fur et à mesure. Ou, l'histoire de Robert est une bonne idée, ça nous permet de rentrer dans le jeu. Je précise bien évidemment que toute ressemblance avec des personnages existants serait purement fortuite. Chaque activité proposée permet de développer des compétences des enfants, car on ne fait pas juste une animation, mais on le fait en lien avec un besoin de l'enfant. On l'a fait pour faire passer un message, un peu comme en EPS au lycée, car il paraît que les jeunes, comme nous, ont besoin de se dépenser physiquement pour se sentir bien. Pour ma part, je considère que c'est entièrement faux. Je me sens plutôt beaucoup moins bien après une séance de piscine qu'avant. Mais bon, ce n'est pas le sujet.
L'équipe de Radio Nautilus tient à préciser que les propos tenus pendant la chronique d'Awen n'engagent que lui, et qu'elle soutient de tout cœur les initiatives sportives. Le sport est très important dans la construction des futurs adultes que nous serons, que c'est certainement une des plus précieuses denrées, et que Rabelais dirait certainement plein de trucs dessus s'il n'était pas mort. Reprenons.
La deuxième étape est un stage pratique. Bon courage pour en trouver, car les places sont limitées, mais là-bas vous aurez l'occasion de vraiment voir si ça vous plaît. d'une durée de 14 jours minimum, vous serez dans le feu de l'action, en contact avec de vrais enfants, avec leurs morves et leurs mains sales. Mais surtout, vous serez au sein d'une équipe d'animateurs. Et enfin, la troisième et dernière étape est une session d'approfondissement sur un sujet de votre choix, comme la poterie, les grands jeux, les séjours en tente ou le théâtre. Vous trouverez de tout. Mais vous pouvez aussi, d'un autre côté, passer une session de qualification à la place, et ainsi devenir surveillant de baignade, SB, pour les intimes. Puisque maintenant, à partir de 20 cm d'eau, environ l'auteur d'un verre, il en faut un, sinon c'est illégal. Pour finir, l'âge de formation a été abaissé à 16 ans, montrant qu'il y a de la demande. Alors prenez mon conseil, foncez tête baissée, car c'est une expérience géniale.
Merci beaucoup Awen, je sais pas si tu seras toujours vivant pour la prochaine édition, mais c'est la dure loi de l'animation et de la collaboration. En attendant, il y en a d'autres qui pourraient certainement se refaire une petite santé pendant ces périodes troublées. Saviez-vous que, jusqu'à la moitié du XXe siècle, vinasse, pinard, cidre et whisky étaient légion dans les maternelles et les écoles primaires. Il faudra en effet attendre 1956 pour mettre fin à la consommation d'alcool dans les cantines pour les moins de 14 ans. Avec l'usage, la règle s'est élargie aux collèges et lycées. Mais saviez-vous qu'aucune loi ne stipule clairement qu'il est interdit de consommer des boissons alcoolisées en milieu scolaire ? Lycéens, lycéennes, à vos verres ! Ce message n'est évidemment pas à prendre au pied de la lettre. Le lycée Jules Verne, dans toute son intégrité, dispose d'un règlement qu'il faut respecter. Néanmoins, c'est à vérifier si Clémenceau et Guistot disposent des mêmes interdictions. Sinon, vous savez évidemment ce qu'il vous reste à faire. Tout de suite, la revue de presse de Mathis Joachin, énoncée par moi-même. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Cette revue de presse est classée géographiquement et non chronologiquement et relate les événements majeurs intervenus ce mois d'avril dans le monde entier. En Asie de l'Est, entre la Chine et Taïwan. L'actualité internationale de ce mois d'avril a d'abord été marquée par l'escalade des tensions entre Taïwan et la Chine. Samedi 8 avril, le gouvernement chinois a lancé un grand exercice militaire autour de Taïwan. Au début des opérations, le ministère de la Défense de Taïwan a recensé une dizaine de navires et plus de 70 avions militaires chinois autour de ses côtes. Si Taïwan dénonce des moyens démesurés pour un simple exercice, Pékin se justifie en qualifiant ses actions de nécessaires pour sauvegarder la souveraineté et l'intégralité territoriale de la Chine. Cet exercice a eu lieu en réponse à la visite diplomatique de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen et le président de la Chambre américaine des représentants Kevin McCarthy. Pour le gouvernement chinois, cette rencontre est une provocation et une menace pour sa souveraineté sur cette île. Or, suite à cet exercice, le président chinois Xi Jinping a rappelé que quiconque pense que la Chine va faire des compromis à propos de Taïwan se berce d'illusions. Tsai Ing-wen a immédiatement répondu qu'elle ne comptait pas arrêter de travailler avec d'autres pays comme les États-Unis, jugeant cette collaboration nécessaire pour défendre les valeurs démocratiques. De leur côté, les États-Unis ont demandé à la Chine de faire preuve de retenue, notamment en rappelant qu'ils possédaient les moyens d'intervenir militairement dans cette région. Ils ont d'ailleurs déployé un navire à proximité des côtes chinoises quelques jours après la fin de l'exercice, alors que la Chine avait laissé des bâtiments militaires. Enfin, face à cela, Emmanuel Macron a tenu un discours différent des États-Unis en appelant à ne pas monter dans l'escalade des tensions et espère un règlement plus pacifique. La Chine a salué cette décision alors qu'elle a été critiquée par les États-Unis et notamment par l'ancien président américain Donald Trump qui a affirmé lors d'une interview pour Fox News que Macron était en train de lécher le cul de la Chine. Entre Chine et Ukraine maintenant, la Chine s'est retrouvée une seconde fois dans la controverse ce mois-ci à cause de propos tenus sur la guerre en Ukraine. Invité sur LCI, l'ambassadeur de Chine en France, Lu Shai, a déclaré que les ex-républiques soviétiques n'ont pas le statut de pays souverain dans le droit international parce qu'il n'y a pas d'accord international pour concrétiser leur statut. Ces propos, considérés comme dangereux dans le contexte de la guerre en Ukraine, ont fait polémique et la Chine a été contrainte de répondre. Elle a ainsi affirmé à travers un communiqué que cette phrase était une opinion personnelle exprimée au cours d'un débat et non un point de vue officiel chinois. Cependant, ce communiqué n'a pas réussi à apaiser la tourmente puisque Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, avait précisé que l'Union européenne ne pouvait que supposer que ces déclarations n'étaient pas le point de vue de la Chine. Autre fait marquant de l'actualité internationale, la guerre au Soudan du Sud. En 2021, un coup d'état a eu lieu mettant fin à la dictature et depuis le pouvoir était aux mains de deux militaires, le général Abdel Fattah al-Burhan, chef du gouvernement, et Mohamed Hamdan Daglo, son adjoint. Ces deux militaires sont très vite devenus rivaux pour la prise de pouvoir jusqu'au samedi 15 avril où, après de nombreuses tensions, les premiers combats ont éclaté. Ceux-ci opposaient donc les deux militaires, le premier est aidé de l'armée soudanaise, tandis que le second s'appuie sur les forces de soutien rapide, un groupe paramilitaire très important dans le pays. Les deux groupes armés s'affrontent dans les grandes villes, notamment dans la capitale Khartoum, où les habitants sont contraints de rester cloîtrés chez eux. Des couloirs d'évacuation ont été créés afin que les diplomates et ressortissants étrangers puissent quitter le pays, dont la situation ne semble pas se régler de sitôt. En Europe maintenant, l'Allemagne a célébré samedi 15 avril la fermeture de ses trois dernières centrales nucléaires pour ne dépendre plus que de ses mines de charbon. La décision avait déjà été votée en décembre, mais au vu du risque de crise énergétique, l'arrêt de ces centrales n'a eu lieu que ce mois-ci. En France, le mois d'avril s'est déroulé au rythme des manifestations et des grèves en réaction à l'utilisation du 49.3 par Emmanuel Macron pour faire passer en force sa réforme des retraites. En effet, alors que les manifestants étaient de moins en moins nombreux en début de mois, la validation et la réforme par le Conseil constitutionnel et sa promulgation officielle ont révolté les Français et ont entraîné un nouveau souffle aux manifestations. Le jour même de la signature de cette réforme, de nombreux heurts entre policiers et manifestants ont été recensés, notamment à Rennes où les manifestants ont incendié la porte d'un poste de police ainsi qu'un ancien édifice religieux. À Marseille, les manifestants ont bloqué la gare Saint-Charles durant toute une journée. Et enfin, à Paris, le ministère de l'Intérieur a évoqué une trentaine de mises à feu de poubelles, ainsi que 112 arrestations. Pour finir, ce mois d'avril, nous célébrons les 10 ans du mariage pour tous. En effet, le 22 avril 2013, moins d'un an après l'élection de François Hollande, la loi portée par la ministre de la Justice visant à autoriser le mariage pour tous est adoptée. 331 voix pour, 225 contre. Elle était à l'époque très controversée, que ce soit à l'Assemblée nationale et notamment à droite, où elle n'a reçu qu'une seule voix, ou au sein de la population avec le mouvement des Manifs pour tous. Ces mouvements avaient fait chuter le pourcentage de la population pour le mariage pour tous à 53%, alors qu'il était à 58% avant ces manifestations. Depuis, le mariage pour tous semble beaucoup plus accepté dans l'opinion publique, et on compte environ 70 000 mariages entre personnes du même sexe. Merci, et au mois prochain.